Sur France Bleu, on se dit tout. Ségolène Aluny.
Bonjour à tous et bienvenue en direct ou en podcast dans votre émission de témoignage. Pendant une heure, France Bleu recueille vos confidences autour d'un sujet délicat ce jeudi. À la veille de la journée internationale des droits des femmes, nous avons décidé d'ouvrir la parole sur le harcèlement sexuel.
Il m'a carrément proposé des relations sexuelles et il m'a envoyé des vidéos sexuelles et la première fois, j'étais dans son bureau et j'ai détourné le regard, mais j'étais vraiment, vraiment sidérée.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi.
Les tabous se lèvent de plus en plus ces dernières années. Ici, on a entendu la chanteuse Angèle qui faisait directement référence à la vague Balance ton porc. Alors même si les langues se sont déliées depuis l'affaire Weinstein, le harcèlement sexuel est loin d'être un chapitre clos. Harcèlement de rue, dans les transports en commun, sur votre lieu de travail aussi. Vous avez la parole, vous qui avez été victime de harcèlement sexuel. À votre écoute dans On se dit tout, la psychologue Florence de Surmain qui est notre invitée. Bonjour Florence.
Bonjour Ségolène.
Alors qu'on soit bien clair, le harcèlement sexuel, c'est pas forcément lié à un acte de nature sexuelle, ça concerne aussi le harcèlement moral.
Oui, dans le harcèlement, il y a surtout une relation de pouvoir, quelqu'un qui veut dominer quelqu'un d'autre et qui va lui nier ses désirs. Et c'est cette relation-là qui peut rentrer dans une relation, en psychologie on appelle ça des relations perverses, qui vont déclencher le harcèlement.
Et on a du mal à en parler aujourd'hui, il faut continuer de briser le silence. Vous avez vécu une situation d'humiliation dans votre milieu professionnel, vous avez été harcelée dans le métro, le bus, avez subi des violences sexistes ou sexuelles, rejoignez-nous ce jeudi. C'est important d'en parler, même si c'est pas forcément évident. D'ailleurs, vous pouvez témoigner en restant anonyme. Appelez-nous tout de suite, on se dit tout sur le harcèlement sexuel.
Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
Plus d'une Française sur deux déclare avoir déjà été harcelée sexuellement. Remarques déplacées, regards lubriques dans la rue, mains perdues le long des fesses. Eh bien, tous ces petits gestes, ces mots n'ont rien d'anodin. Il s'agit bien de harcèlement sexuel. Alors, si vous avez déjà été victime de ce genre de situation, prenez la parole aujourd'hui au 0810 055 056. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas de petit harcèlement. Toutes les confidences sont les bienvenues. Et vous pouvez les faire en toute confiance aux côtés d'une psychologue, notre invitée, Florence de Surmain, qui est à votre écoute. On file tout de suite en région parisienne avec un témoignage, celui de Chloé qui est au bout du fil. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Alors vous avez un témoignage à nous apporter puisque vous avez été victime de harcèlement dans le métro et ce à plusieurs reprises.
Oui, alors c'était la quatrième fois. Il y a eu d'autres fois dans des circonstances différentes. Mais la dernière fois c'était l'année dernière dans le métro, oui, dans les couloirs.
Qu'est-ce que vous avez
me met la main aux fesses j'ai 30 ans aujourd'hui, je crois qu'avec toutes ces autres mains aux fesses que j'ai subies, c'est la fois de trop et j'ai voulu le confronter en fait. Et en me retournant, en demandant qui c'était parce qu'il était quand même trois, il y a un passager qui marchait par là et qui me l'a dénoncé en fait. Il m'a dit c'est lui, je viens de devoir faire ça.
Ouais.
Et j'ai eu envie de lui mettre ma main dans la figure. Chose que j'ai un petit peu ratée. Mais en tout cas, je me suis défendue, j'ai répliqué et puis en fait ce passager m'a complètement défendue et lui a mis sa raclée.
C'est dingue. J'aimerais juste rebondir là-dessus, Chloé. C'est assez dingue parce que généralement, dans ce genre de situation, on a tendance à entendre dire que personne ne bouge quand il y a une agression.
Et en fait, ça s'était prouvé par des études de psychologie sociale. En cas d'agression, plus il y a de témoins qui voient l'agression, moins les personnes vont aller aider, parce qu'il existe ce qu'on appelle une diffusion des responsabilités, et chaque personne qui est témoin d'une agression se dit que l'autre a déjà appelé la police ou a fait quelque chose. Donc le nombre de témoins fait en sorte que l'action pour aller aider la victime risque de ne jamais arriver.
En tout cas, sacré courage pour ce passager du métro. Chloé, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez porté plainte, je crois.
Oui, j'ai tout de suite alerté à la RATP parce qu'ils étaient là, ils ont assisté à la scène. Il n'y a pas eu d'appel aux policiers, rien à ce moment-là. Du coup, je suis rentrée dans mon métro un petit peu choquée parce qu'en plus je m'étais tellement énervée au point d'aller vouloir le taper, ça ne m'est jamais arrivé. Mmh. Du coup, j'étais dans un état de nerfs qui me reconnaissait pas, quoi.
Mais on sent encore de l'émotion dans votre voix, Chloé. C'est quelque chose qui a l'air de vous révolter. Vous vous êtes sentie comment à ce moment-là? On se sent un peu comme un objet, en fait.
Ben oui, on se sent. C'est pénible, quoi. C'est pas la première fois. Et on a envie de. Je sais pas. C'est quelque chose. On se dit mais où ils ont été élevés ces gens-là pour pouvoir décider de toucher quelqu'un. Comme ça, ça me paraît tellement le béaba de l'éducation et du respect des autres, que pour moi, c'est fou, quoi.
Florence de Surmarin.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est pas forcément une question d'éducation, parce que les personnes qui se permettent de dépasser ces limites-là, qui sont des limites de l'intime, et qui savent très bien que ça ne se fait pas, elles prennent du plaisir à dépasser les interdits. Donc, c'est encore du registre de la perversion, et c'est pas plus vous allez vous sentir mal à l'aise, plus il va prendre du plaisir de sentir que vous êtes mal à l'aise.
C'est pourquoi c'est important justement de les dénoncer. Et Chloé a eu tout à fait raison de porter plainte, même si la plainte n'a pas eu finalement de résultat. Ça peut permettre de retrouver peut-être les personnes par la suite. Merci beaucoup Chloé d'avoir eu le courage de témoigner aujourd'hui. On se dit tout sur le harcèlement sexuel, harcèlement de rue dans les transports collectifs. 0810 055 056 pour apporter votre témoignage aujourd'hui.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Et sur un sujet un peu délicat aujourd'hui, puisque nous recueillons vos confidences sur le harcèlement sexuel, que vous l'ayez subi récemment ou il y a plusieurs années, comment avez-vous réagi face à des mots, des gestes déplacés? Est-ce que ça a eu des conséquences après sur votre comportement, peut-être votre vie de couple également? On prend la liberté d'en parler avec vous en toute bienveillance au 0810 055 056. Et en préparant cette émission, Florence de Surmain, vous êtes notre invitée, psychologue, j'ai appris que les harcèlements ont lieu majoritairement sur le lieu de travail, parce qu'en fait, j'en ai déduit que c'est parce qu'il y avait une situation de rapport au pouvoir.
De rapport au pouvoir, il y a des relations de domination beaucoup sur le lieu de travail. Et dans la culture, on a tendance encore à donner des postes à responsabilité plus à des hommes qu'à des femmes.
Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le témoignage de Carmen qui nous appelle depuis la Lorraine. Bonjour Carmen.
Bonjour.
Vous avez 58 ans aujourd'hui et vous avez été harcelée pendant plus de 20 ans sur votre lieu de travail et ça a laissé des conséquences psychologiques.
Ça reste des conséquences et des traumatismes. Pour moi personnellement, j'arrive pas à me... Il y a des peurs qui par moments ressurgissent, vous savez. Il y a des moments où je peux pas contrôler. C'est vachement difficile, j'arrive pas à contrôler. C'est ça.
Vous n'arrivez plus à faire confiance aux hommes, Carmen.
Je dirais pas comme ça, mais il y a eu deux personnes en qui j'ai eu confiance, en qui j'ai confiance entièrement, mais après, c'est vachement difficile, j'ai peur des hommes. Et pourtant, je sais qu'il y a, dans mon entourage, des gens adorables, mais je peux pas contrôler ma peur.
C'était votre employeur ou c'était des collègues? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Il y a un peu plus de 20 ans, donc ça avait été par un employeur. On avait été plusieurs et là on avait réussi à... Il a pris la porte parce que lui il était sous-directeur à l'époque. Et donc le grand directeur, on avait fait le nécessaire, donc il avait été licencié cette personne, donc voilà. Mais malgré ça, ce que je veux dire par là, c'est que après avoir vécu ça déjà, je me rappelle, j'avais été arrêtée parce que moi j'étais vraiment traumatisée et je me réveillais la nuit dans les toilettes en train de vomir. Mais je me réveillais, je réalisais que j'étais en train de vomir.
Est-ce qu'on juste si on peut rentrer un peu plus dans le détail, Carmen, qu'est-ce que vous avez subi, même si visiblement vous n'étiez pas la seule sur le lieu de travail à subir les sévices de cet homme, mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était des remarques, des gestes?
Des remarques, et puis une fois je l'avais surpris, à l'époque je travaillais à 5h du matin. Et j'arrive à 5h du matin et je rentre dans le bureau et je le trouve dans le noir. en train de téléphoner et bon, je pense que ben il essayait de ben il téléphonait sûrement c'est hein voilà et ben moi il m'a fait des menaces quoi.
C'est-à-dire
ben, des menaces je sais pas les expliquer, pardon, je suis tellement émue.
Ouais.
Voilà, c'est assez délicat quoi.
20 ans plus tard, on sent encore les conséquences sur vous, Carmen. C'est assez fort ce témoignage. Mmh. C'est quelque chose qui nous quitte plus après.
Cette situation, je suppose, a duré longtemps. Vous êtes resté combien de temps dans ce travail?
Ça s'est calmé. Mais après, ce que je veux dire par là, hormis à part ça, il y a eu beaucoup de choses. Alors, je peux pas rentrer parce que déjà, on n'a pas beaucoup de temps
oui.
pour dire en gros. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que il y a ça et il y a aussi des viols. Et que malgré, parce que j'ai eu une chance quand même dans ma vie, je suis tombée sur un psychiatre super qui m'a beaucoup
oui,
aidée.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser, savoir
voilà.
si vous étiez suivie.
Malgré ça, on vit avec ça. Et
vous avez subi un viol sur votre lieu de travail, Carmen?
Non, pas non non. Après je peux pas détailler.
Non mais
voilà, mais c'est des choses terribles. Alors les gens qui nous aiment, il y en a certaines personnes qui le savent, je sais pas s'ils réalisent. Personnellement, bon, ils disent qu'ils je crois que les gens disent ils comprennent, ils compatissent. Mais je pense que ils prennent pas
la mesure des conséquences. Merci infiniment, Carmen, pour ce témoignage ultra touchant. Oui, Florence.
C'est vrai, de toute façon, que ce soit du harcèlement jusqu'à l'agression sexuelle, jusqu'au viol, c'est toujours une manière de dénier notre humanité. Parce qu'on prend pas en désir, on prend pas en compte qu'on a des désirs et qu'on est une personne. On est utilisé comme un objet. C'est le but du pervers. Mais les conséquences sur les victimes sont dramatiques. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, se faire suivre. Il faut être entouré par des personnes qui vont venir restaurer cette humanité qui nous a été enlevée.
C'est super important de dénoncer et surtout de ne pas rester dans la banalisation de ces actes, même s'ils sont minimes et si ça va jusqu'au viol, évidemment. Merci encore, Carmen, pour ce témoignage touchant en Lorraine. 0810 055 056, vous aussi, vous pouvez vous exprimer, ça peut faire du bien. N'hésitez pas à nous appeler aussi sous couvert d'anonymat. On se dit tout sur le harcèlement sexuel aujourd'hui.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
On se dit tout sur le harcèlement sexuel à la veille de la Journée internationale des droits des femmes parce que ce sont elles les plus touchées par le sujet. Mais messieurs, vous êtes également les bienvenus puisque le harcèlement sexuel ne concerne pas que la gente féminine. De plus en plus d'hommes sont touchés par le sujet. 7% en sont victimes en France. Et ça, Florence de Surmain, on en entend beaucoup moins parler.
Oui, parce qu'ils sont moins nombreux. Comme je le disais tout à l'heure, le harcèlement, il y a une relation de domination et on est dans une culture où l'homme, culturellement, il va avoir une position dominante par rapport à la femme. Mais l'inverse existe aussi. D'un point de vue psychologique, on peut tous être pervers, que ce soit des femmes ou des hommes.
Bien sûr. Alors justement, on a un témoignage qui va illustrer ce que vous dites, celui de Jacques qui nous appelle depuis la Gironde. Bonjour Jacques.
Bonjour Ségolène et bonjour à Florence.
Bonjour.
Vous avez été harcelé sur votre lieu de travail par une supérieure qui essayait de séduire les hommes mariés pour casser les ménages. C'est comme que vous l'avez analysé, oui?
Oui, tout à fait, oui. Ben c'est-à-dire que moi, j'étais dans une grande administration, enfin à la Poste, pour ne pas la nommer. Et c'est vrai que le service où j'étais était assez masculin puisqu'on s'occupait beaucoup de transbordement et de déchargement camion dans un centre de tripostage. Et quand le service a commencé à se féminiser, est arrivée une personne qui avait une réputation un peu sulfureuse. Bon, mais moi, comme je suis quelqu'un j'écoute pas forcément j'ai voulu me faire une opinion sur moi-même. Et c'est vrai qu'à travers ces phrases, qu'on va dire, j'ai vu de vie la personne que c'était, et j'ai vu bon ce qu'elle était capable de faire, et notamment à mon encontre, ce qui m'a valu, disons, comme je disais à votre collaboratrice quand j'ai appelé, alors on peut sourire un peu parce qu'on se dit un homme doit pouvoir se défendre, c'est pas que physiquement que ça perturbe, c'est psychologiquement, puisque ben, on vous évitait de vous trouver en tête à tête avec elle, Et puis quand elle est là, eh bien, c'était toujours des petits gestes un petit peu. Alors, je défaisais un bouton de mon corsage, par exemple, des petits. Ou alors, quand elle arrivait à des fois à prendre la pause en même temps que nous dans notre service, c'était, elle se met en face de vous et commence à vous faire du pied. Enfin, des choses comme ça qui sont fort désagréables et qui ont des conséquences psychologiques à la fois sur la personne. Et sur le ménage aussi, parce que dans la mesure où mon épouse travaillait dans la même entité que moi, bon, c'est vrai que c'est extrêmement délicat et c'est difficile à vivre, quoi.
Est-ce que vous réussissiez à en parler, Jacques, peut-être avec vos collègues?
Oui, complètement. C'est ce qui a permis justement de d'expliquer pourquoi j'avais cette attitude un peu froide vis-à-vis d'elle. Et j'ai complètement réussi à expliquer ça à mon épouse, qui a très très bien compris et qui, elle-même en tant que femme, avait peut-être aussi senti ce type de personne, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile à gérer, parce que on a toujours le côté, le regard du gars un peu macho qui doit capable physiquement de se défendre, mais c'est vrai que c'est insidieux, parce que c'est psychologique et ça vous met dans une situation extrêmement difficile, quoi.
Ouais. J'aimerais rebondir sur ce que vous dites, Jacques, justement, sur cette image qu'on a du mec macho qui doit savoir se défendre. Il y a une vraie honte pour l'homme à avoir subi du harcèlement sexuel, puisqu'il y a cette image de la virilité qui doit être conservée à tout prix. Peut-être pour ça qu'ils en parlent moins aussi.
Oui, mais il y a une honte dans tous les cas, que ce soit que la victime, elle soit un homme ou une femme, ça peut créer une honte du fait d'être harcelé. Il y a une barrière intime qui a été dépassée. Et cette barrière intime, elle est différente suivant les personnes et elle est difficile à expliquer. On va ressentir que cette barrière a été dépassée parce qu'on se sent mal à l'aise dans nos émotions. Et c'est ces émotions-là qui vont être une meilleure boussole que parfois les mots pour expliquer ce qui se passe.
On se dit tout sur le harcèlement sexuel aujourd'hui qui ne concerne pas que les femmes, vous l'avez entendu. Merci infiniment, Jacques, d'avoir eu le courage de nous appeler depuis la Gironde pour ce témoignage. Un regard qui vous déshabille, une main qui se pose sur vos fesses, une remarque au travail. Il n'y a pas de petit harcèlement sexuel. Prenez la parole et témoignez aujourd'hui des actes déplacés dont vous avez été victime. 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu. Ségolène Aluny.
Vous êtes nombreuses et nombreux aussi à nous appeler pour témoigner sur le harcèlement sexuel dont vous avez été victime. Florence de Surmain, psychologue clinicienne, est à votre écoute aujourd'hui au 0810 055 056. Direction Paris, tout de suite, nous sommes en direct avec Aurélie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez un témoignage assez poignant à nous apporter, puisque un monsieur d'une cinquantaine d'années a profité de vous en état de faiblesse un jour. Il vous a emmené dans un champ et vous a montré, je cite sans faire exprès, une photo de lui complètement nu.
Voilà. Donc, je lui ai dit que je ne voulais pas voir cette photo. Sauf que malheureusement, il m'a expliqué que maintenant que lui s'était vu nu sur son portable, ça lui avait déclenché une envie sexuelle, et qu'il avait envie de se masturber. Alors je lui ai dit qu'évidemment, il pouvait avoir des pulsions comme ça, mais pas en ma présence, et qu'il le ferait, s'il voulait le faire, il le faisait en rentrant chez lui.
Excusez-moi, mais vous aviez quel âge, Aurélie, à ce moment-là?
C'était l'année dernière, hein, donc une trentaine d'années. Quelqu'un que je connais juste comme ça de connaissance. Je n'aurais jamais cru qu'il serait comme ça. Hein. C'est pas quelque chose qui se voit sur la personne.
Et vous avez réagi comment?
Je n'ai pas pu. On était dans sa voiture puisqu'il a prétexté vouloir me montrer au départ un champ. Il s'est arrêté, il a été faire pipi, on est remonté dans la voiture, il me dit « je vais te montrer des photos de mon jacuzzi » et puis il me dit « mon doigt a ripé, c'est moi nu, ah je me suis trompée », bon il rigole. Incroyable. Et là il me dit qu'il a une envie soudaine, une pulsion sexuelle. Et ben, j'ai été tétanisée, en fin de compte je n'ai pas pu bouger, j'ai regardé droit devant moi, il y avait un champ avec un cheval et... En fait, j'ai fixé ce cheval, puisque du coup, il était en train de... Il a baissé son siège, il a tiré son pantalon, et en plus, il m'a demandé si je voulais regarder. J'ai dit non. Là, il commence à me dire « Oh bah regarde, parce que mon sexe doit être très beau, je ne suis pas encore en érection, regarde, et tu dois aussi avoir une belle, alors je le cite, hein, chatte. Mm-hmm. » Alors il me demande s'il peut me toucher, il commence à mettre sa main sur mon genou, je le repousse hein, quand même, heureusement.
Ouais.
Et là, il me dit « Alors c'est pas grave, si tu ne veux pas que je te touche, tu peux quand même me montrer soit ton sein, ou ton sexe, mais je ne ferai rien. » Et je lui ai dit non, si je ne veux déjà pas que tu me touches, je ne vais pas non plus te les montrer pour attiser encore plus cette pulsion que tu as. Et je lui ai dit, si tu veux faire ça, tu fais ça quand tu es chez toi tout seul. Et là, il me répond en souriant et en rigolant, en me disant, ah non, ce sera moins drôle.
Est-ce que vous avez pu le dénoncer, Aurélie ?
Oui, et comme je voyais sa lèvre qui bougeait un peu, je me suis dit je vais le laisser faire. Une fois que ce sera fait, il va me ramener, je pourrai rentrer. Oui, j'ai porté plainte.
Mmh. Et il y a eu des suites.
C'est en cours.
C'est en cours, d'accord.
Oui, c'est en cours.
Mmh. Là, Florence de Surmain, on perçoit la perversion totale. Mais ce qui est dingue, c'est que c'était une connaissance et qu'elle soupçonnait pas du tout le caractère pervers du monsieur.
Ce qui se passait. Une fois qu'une relation de domination est mise en place, plus il voit que la victime est mal à l'aise et plus il va être excité. Donc, dans ces cas-là, ce que vous avez fait, c'est très bien. Le moment de sidération est normal d'un point de vue psychologique. Quand on est agressé, c'est un mécanisme de défense innée. Le cerveau va se protéger de certaines agressions qui peuvent survenir.
Mais on va s'en vouloir, j'imagine qu'après Aurélie devait se sentir salie, devait s'en vouloir de pas avoir
réagi.
C'est
un mécanisme de défense qui va protéger l'organisme pour le dissocier. S'il y a des agressions physiques qui doivent arriver à un moment ou à un autre, l'organisme automatiquement il va se sidérer pour se couper des sensations. C'est pour ça que dans ces moments-là, on peut pas réfléchir correctement, on ne peut rien faire. Et elle le décrit bien, que son regard s'est fixé et ça veut dire que ces mécanismes de défense ont bien fonctionné sur le moment même. C'est normal que le cerveau se défende. Il active ce mode de survie en fait. Donc son mécanisme de défense a bien fonctionné. Elle n'a pas à se reprocher quoi que ce soit.
Surtout qu'elle a eu le bon réflexe de le dénoncer derrière. Merci infiniment, Aurélie, pour
se défendre comme ça.
Pour ce témoignage très touchant. Merci encore. Merci beaucoup, Aurélie. Et je vous rappelle que vous pouvez également témoigner encore. Il nous reste quelques minutes pour débattre et pour recueillir vos témoignages au 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
Grâce à vos témoignages courageux aujourd'hui autour du harcèlement sexuel, alors c'est vrai qu'on recense énormément de cas de harcèlement dans les transports collectifs. Je pense notamment à ceux qu'on appelle les frotteurs, des hommes qui profitent de wagons plus ou moins bondés pour effleurer, caresser ou coller leur corps sur celui des femmes sans leur consentement, évidemment. Et c'est compliqué à dénoncer. Aujourd'hui, on en parle avec vous, 0810 055 056 et aux côtés de Florence de Surmain, notre grand témoin, qui est à votre écoute, psychologue. Paola, vous êtes en direct depuis Paris avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Ségolène, bonjour Florence.
Bonjour.
Il y a 10 ans, justement, vous avez été victime d'un frotteur dans le métro.
Oui, tout à fait.
Les rames étaient bondées, généralement c'est dans ce cas-là que ça se produit.
Et j'avoue qu'il y a une bonne dizaine d'années, on n'en parlait peut-être pas autant. Donc c'est vrai que je me méfiais peut-être pas tant que ça. Pourtant j'étais d'une nature peureuse. Suite à d'autres événements qui m'ont toujours un peu fait craindre ce type de situation. Et puis, comme toujours, on réagit pas. On reste là. Et puis, le temps de s'apercevoir de ce qui se produit, ce qu'on n'imagine jamais jusqu'où ça peut aller. Il est vrai que moi, la personne en question, elle a profité peut-être d'une ou deux stations et j'ai quand même... La situation s'est terminée avec du sperme sur ma jupe et je sortais sur le quai du métro et les gens dans la rame allaient partir, me regardaient. Et j'avoue que j'ai même pas eu courage de lever les yeux parce que je pense qu'ils me regardaient. Je pense qu'ils attendaient de voir si on allait avoir un contact visuel pour sentir comment moi j'étais dans la détresse dans laquelle j'étais et savoir si... il avait vraiment réussi à aller jusqu'au bout de ce qu'il avait fait.
Vous voulez dire que les gens autour avaient vu ce que cet homme a fait, qu'il a éjaculé sur vous ?
Non, mais quand je suis sortie, il y en a certains qui avaient vu qu'il y avait du sperme sur ma jupe, en fait. Et j'étais accompagnée de mon ami à l'époque, et lui, on s'était éloigné parce qu'il y avait du monde qui rentrait sur les deux stations qui ont précédé la chose. Et, et c'est vrai qu'il n'a pas non plus, les bras lui en tombaient, et on était là comme ça, et je voulais juste rentrer chez moi et me changer.
Pourquoi vous n'avez pas porté plainte, Paola ?
Parce que j'ai pas du tout pensé à ça. Mon réflexe a été, je rentre chez moi, je jette la jupe, j'en parle plus. Et c'est vrai que comme j'étais avec mon ami, hein, qui est toujours mon ami aujourd'hui, je me suis dit, on peut rien faire d'autre. Il était là, et voilà. Moi-même, j'ai pas pu me dire à un moment donné, mais oui, c'est ça qui se passe, et je dois me retirer, je dois vraiment me décaler ou crier. Et j'ai pas du tout eu ce réflexe.
Il y a un sentiment de honte de la part de Paola, clairement.
Oui, en fait, comme c'est un geste qui vient dénier notre humanité, comme je le disais tout à l'heure, si on a une mauvaise estime de nous-mêmes, ou ce que j'entends de ce que vous avez dit, si on a eu d'autres expériences dans le passé qui expliquent qu'on a des failles de notre estime à ce niveau-là, on va avoir tendance très vite à favoriser l'hypothèse comme quoi, peut-être, si ça nous arrive, c'est que dans le fond, il nous manque quelque chose ou presque qu'on le mérite.
On se culpabilise
carrément. Ce n'est pas le cas. Ce n'est jamais le cas. On est victime. C'est la personne en face qui est agresseur.
Paola, est-ce que du coup, vous prenez d'une manière différente aujourd'hui les transports en commun ? Est-ce que vous êtes méfiante au quotidien ? Suite à cet événement.
Suite à ça, pendant un an ou deux, j'ai plus pris la ligne 13, ça c'est sûr. Je faisais tous les détours possibles et imaginables pour aller d'un point A à un point B. Mais maintenant, ça va mieux et c'est vrai que je la prends maintenant. Mais vous voyez, je la prends avec ma petite fille de 8 ans et des fois, je me dis, je fais attention encore plus, quoi. Mais ça va, je peux retourner dans les transports en commun, mais il y a eu un laps de temps où c'était très compliqué.
Mais bravo, c'est courageux. Il faut s'exposer. Ces situations ne sont pas... Enfin, peuvent être courantes, mais on peut pas se laisser guider par notre angoisse. Ouais. Et c'est bien de continuer à s'exposer. Vous avez bien fait de pas montrer vos émotions dans tous les cas, parce que ça, de la part d'un agresseur pervers, ça lui procure du plaisir. Et c'est bien d'en parler après coup auprès de personnes qui vous soutiennent et qui vont venir restaurer cette humanité qui a été déniée par cet acte.
Et puis, le plus possible, quand c'est gérable, de porter plainte. Mais en tous les cas,
merci
beaucoup pour votre courage, Paola, d'être venue sur l'antenne de France Bleu. On se dit tout sur le harcèlement sexuel et sans tabou au 0810 055 056.
Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
On se dit tout sur le harcèlement sexuel avec, à votre écoute, la psychologue Florence de Surmain. Et pour clôturer cette émission, nous filons tout de suite en Corrèze avec Monique. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, ça s'est passé un 14 juillet. Vous avez eu une main aux fesses, sauf que vous n'avez pas compris ce qui se passait.
Non.
Il a fallu que le monsieur s'y mette à plusieurs reprises, quoi.
Voilà. J'étais à un feu d'artifice. On était sur un pont, sur un endroit qu'on est toujours très, très serré. Et j'avais mon petit-fils qui avait 4 ans à l'époque sur les bras. Et puis, au départ, comme on était serré, j'ai pas fait attention. J'ai senti un petit coup, mais j'ai cru que c'était quelqu'un qui me bousculait. Après, j'ai eu 3 ou 4 reprises la même chose. J'ai cru après que c'était mon petit-fils qui me donnait un petit coup de pied. Et quand le feu d'artifice est terminé, je me suis retournée et j'ai vu au regard de cet homme, je me suis dit non, ça n'est pas un petit coup de mon petit-fils, c'est lui qui m'a mis la main aux fesses. Et on était en famille, je me suis sentie tellement désarmée. Et puis il avait un regard de jouissance en me regardant. Tu vois, tu n'as rien dit. Et après, du coup, j'étais complètement déstabilisée. Pourtant, j'avais à l'époque 64 ans. Je viens de la région parisienne, le métro, tout ça. J'en ai déjà eu plusieurs fois des mains aux fesses. Mais alors là, j'étais complètement déstabilisée. Du coup, j'ai rien dit.
Et vous vous en êtes voulu après, Monique ?
Oui, oui, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, si jamais, si j'avais dit quelque chose, peut-être que il aurait pas continué. Enfin, je sais pas.
Oui, Florence.
Je me suis sentie mal, quoi.
Bon, bah, déjà, vous avez raison de vous sentir mal parce qu'il l'a fait pour ça. Donc, dans ces cas-là, il atteint son but et il arrive à faire en sorte que les gens se sentent mal. Après, je pense qu'il vous est arrivé, vous avez ressenti cet effet de sidération qui est normal et qui est un bon mécanisme de défense, donc il n'y a pas à vous en vouloir de ça. Il y a toujours un temps de latence à partir du moment où on arrive à réfléchir correctement à la situation, à prendre du recul, une fois que l'effet de sidération est passé, et souvent là, c'est trop tard par rapport à la situation. Mmh. La manière dont il est bien de s'adresser à quelqu'un qui se comporte, qui a des comportements pervers. Il faut savoir que les pervers sont des grands immatures. Donc il faut s'imaginer que c'est un enfant, en fait. C'est la manière dont un parent va recadrer un enfant qui dépasse des limites.
Là, clairement, en plus, c'est ce qu'elle décrivait dans son regard. Mmh. Monique, est-ce que vous aviez réussi à en parler à l'époque, à vos proches, à vous confier ?
J'en ai parlé pas tout de suite. Un peu après, j'en ai parlé avec mon mari, parce que notamment il y a eu un, et on parle souvent de ces, de ce type de désagrément, et je pèse mes mots parce que je veux pas aggraver la chose, mais et c'est vrai que je vous dis, bon, moi j'ai travaillé aussi dans le social où on a reçu des femmes battues, des femmes violées et tout. Après tout ça s'est remonté à la surface, je me suis dit, pour ces femmes-là, pour les futures, il aurait fallu que je fasse quelque chose. Ouais. Dernièrement, la semaine dernière, j'étais dans la région tarienne et ma petite fille est rentrée du métro bouleversée. Elle a 16 ans. Elle a eu sa première main aux fesses.
Et vous en avez parlé ensemble après Monique?
Oui, on en a discuté, oui.
Oui, c'est bien. Il faut justement transmettre ces valeurs-là et surtout ne pas laisser passer. Merci infiniment, Monique, de vous être confiée sur l'antenne de France Bleu depuis la Corrèze. Merci beaucoup, Florence de Surmain, d'être venue parler et écouter les témoignages précieux des auditeurs et des auditrices qui ont été nombreux à nous appeler sur ce sujet délicat. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur francebleu.fr. Merci encore, Florence de Surmain, psychologue clinicienne, d'avoir été avec nous. Demain, pour le dernier jour de la semaine, à l'occasion de la collecte nationale des Restos du Cœur, eh bien, on aura justement le cœur sur la main. Vous êtes bénévole dans une association, vous donnez peut-être de l'argent à des organismes humanitaires. Eh bien, venez nous dire ce que vous faites chacun à votre niveau. On se dit tout sur votre engagement solidaire à partir de 14h.